Découvrez l'auteur derrière les mots dans Paroles d'écrivain.
Oui, eh bien, bonsoir. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Gérard Muller pour son livre « Panique à la cité de l'espace », publié aux éditions Les Presses littéraires. Je vous avais déjà reçu, au cours de cette émission, pour d'autres livres, notamment « Le soleil se cache sous les ailes des papillons de nuit ». Vous êtes un écrivain très prolixe, puisque vous avez écrit, vous êtes académicien des livres de Toulouse, « Grand voyageur ». Et vous avez trouvé dans le roman d'espionnage et policier une façon de valoriser votre passion en plaçant vos personnages au cœur même de l'action. Donc. Et vous avez écrit plus de 30 polars qui se déroulent essentiellement en Occitanie,
oui,
mais aussi à l'étranger, puisque certains sont des romans de fiction dont l'intrigue explore tous les continents, de l'Australie, comme je l'ai dit, en Amérique, de l'Afrique au Moyen-Orient, de l'Europe à l'Asie. Et vous avez gagné également, je le précise, de nombreux prix littéraires pour vos romans et vos recueils de nouvelles et de poésie.
Oui.
Donc, vous n'êtes pas un néophyte, vous avez beaucoup de cordes à votre arc et pas uniquement des romans policiers. Et aujourd'hui, donc, je vous interroge pour un roman policier qui se passe à Toulouse, à la Cité de l'Espace.
Oui.
Alors voilà, alors, première question, bien sûr, quel est, par rapport aux autres livres, qu'est-ce qui vous a incité à écrire un livre dont l'action se déroule à l'intérieur de la Cité de l'Espace?
Alors d'abord, c'est mon métier parce que je suis ingénieur.
Astrophysicien, c'est ça, hein?
Oui. Non, je suis ingénieur dans les satellites.
Hein. Dans les satellites, voilà.
Et d'ailleurs, je travaille toujours comme consultant dans les satellites pour des startups. Et je fais aussi partie de l'association des Amis de la Cité de l'Espace. Hein. Et donc, comme c'est mon métier, j'ai eu l'idée, effectivement, de faire ce livre à l'occasion d'une visite à la Cité de l'Espace où il y a une nouvelle attraction. Alors, il ne faut pas dire attraction, ils appellent ça expérience immersive. Hein. Qui est une simulation d'un voyage Terre-Lune. C'est-à-dire qu'on vous met en condition d'abord, on vous met en condition pour ce voyage, on vous explique qu'est-ce qui va se passer. Vous entrez dans une sorte de capsule spatiale, qui est très bien faite, un petit peu à l'égal de celle d'Elon Musk qui va...
Sur Mars.
Qui va aller sur la Lune d'abord. Hein.
La Lune et Mars.
Et puis, vous êtes devant vous un pupitre, vous voyez la Terre sur les bleus, et on vous soumet d'un seul coup à une accélération qui monte jusqu'à 2G. Alors 2G, c'est deux fois votre poids. Hein. Autrement dit, c'est que vous êtes collé au siège. Hein. Et vous voyez la Terre disparaître petit à petit sur les écrans. Ensuite, vous arrivez donc en orbite, et là, l'accélération diminue, et vous commencez le voyage jusqu'à la Lune. Bon, ça ne dure pas quelques jours comme il se doit, mais là, quelques minutes. Et là, d'un seul coup, vous voyez la Lune en petit sur les écrans, et vous êtes resoumis à une accélération qui va monter jusqu'à 1,5G, donc une fois et demi son poids. Et là, vous allez décélérer jusqu'à la Lune, et vous avez la Lune qui grossit, jusqu'à l'alunissage qui se passe dans un cratère. Voilà. Et j'ai trouvé cette attraction, cette expérience immersive très très bien faite, très réaliste, et ça m'a donné l'idée de ce polar. Voilà.
Alors, cette expérience dont vous parlez, elle se réalise déjà à la Cité de l'Espace ou c'est vous qui l'avez...
Elle est à la Cité de l'Espace, elle s'appelle Lune Explorer.
Elle se réalise.
Oui. D'ailleurs, elle a beaucoup de succès. Je conseille à tous les auditeurs d'y aller, parce que c'est tout à fait intéressant. Et c'est vraiment une simulation qui est bien faite. Moi qui suis du métier, je peux vous dire que c'est assez bien fait.
Oui. Hein. Vous l'avez expérimenté vous-même?
Bien sûr.
Oui.
C'est pour ça que ça m'a donné l'idée.
Oui, donc c'est pour ça. Et alors là, il s'agit d'une famille... pas de la famille Paturel, que vous avez été tué, le père, la mère et la fille, hein, Jade, qui sont soumis à cette expérience.
Oui, parce que Jade est une élève ingénieure.
Élève ingénieure.
Dans les satellites, hein, et donc elle a eu l'idée d'emmener ses parents dans cette expérience pour voir leur expliquer un petit peu ce que c'était qu'un voyage Terre-Lune. Quoi, hein, voilà. Et ils montent dans la capsule. Ils font l'expérience, etc. Donc, ils sont... Dans la capsule, vous avez quatre places. Hein. Donc, ils sont trois. Et à l'extrémité, il y a un autre... un homme qui est là aussi, hein, qui est soumis aussi à l'expérience. Hein. Donc, tout se déroule bien, etc. Sauf qu'à la fin, tout s'arrête, la porte de la capsule s'ouvre et le gars n'est plus là. C'est que la quatrième personne n'est plus là. Voilà le début du roman. Voilà, mystère, pourquoi il n'est plus là.
Et il n'y a pas que cette personne-là, puisqu'il y a deux personnes qui disparaissent.
Alors, effectivement, oui. Quelques jours plus tard,
voilà, il découvre...
ça recommence, c'est une femme qui disparaît aussi. Voilà. Et donc là, il y a enquête policière.
Catherine Gillard et Ludovic Dodoin.
Dodoin, oui. Dodoin, voilà. Le premier, et Catherine Gillard, le deuxième. Hein. Et l'enquête est confiée au commissariat de police de Jolimont.
De Jolimont.
Où une capitaine...
Anaïs Faux.
Anaïs Faux est en charge de l'enquête. Voilà.
Et donc, c'est elle qui va essayer de savoir ce qui se passe, où sont passées ces deux personnes. Voilà.
Oui, parce que c'est un mystère. Normalement, comment elles ont pu disparaître dans cette capsule sans que personne ne s'en aperçoive. Hein. Alors, quand vous êtes soumis à 2G, vous perdez un petit peu. Vous ne perdez pas connaissance, mais vous êtes pressurisé sur vos sièges. Et ceci peut expliquer pourquoi ils ne sont pas aperçus que la quatrième personne disparaissait. J'ajoute que la deuxième personne qui disparaît est exactement au même siège que la première personne.
Et alors, elle travaille sur cette enquête avec deux collaborateurs. Et également, elle demande à un collègue, Michel Lemoine, qui est également qui s'occupe de qui est au boulevard de la Mouchure, lui.
Voilà, qui est à l'hôtel de police
au commissariat,
de Toulouse, parce
que
l'affaire commence à faire du bruit. Les autorités commencent à s'inquiéter de cette affaire, qui est mystérieuse. Et donc, le ministère de l'Intérieur a demandé de supporter Anaïs Faux par quelqu'un de l'embouchure.
De l'embouchure. Donc,
ils sont en fait à deux capitaines pour s'occuper de cette enquête.
Et elle travaille aussi en collaboration, bien sûr, avec le directeur de la Cité de l'Espace, nommé Jean-Pierre Dumont,
oui.
Et un spécialiste de ces questions qui s'appelle Gérard Monnier.
Alors Gérard Monnier, c'est un petit clin d'œil à moi.
Oui.
Parce que je m'appelle Gérard Müller.
Müller.
Müller, ça veut dire meunier en allemand.
Et oui, voilà. C'est vrai. C'est
Donc je fais intervenir un spécialiste des satellites. Et donc c'est un petit clin d'œil pour ma personne. Voilà. Et lui, il va émettre une hypothèse sur la disparition. Et cette hypothèse va s'avérer juste. Alors je ne dirai pas l'hypothèse parce que je vais dévoiler l'intrigue. Hein.
Bien sûr.
Hein. Mais il y a une explication physique à cette disparition.
Mmh. Oui, parce qu'elle va faire son enquête, Anaïs Faux, et elle va faire un peu une enquête à l'intérieur de la Cité de l'Espace.
Bien sûr.
Mais elle se demande pourquoi ces personnes ont disparu, et elle fait son enquête à l'intérieur elle-même de cette fameuse capsule.
Bien sûr, elle expérimente la capsule, voilà. avec ses collaborateurs, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Hein. Et puis, bon, encore une fois, ce Gérard Meunier qui a trouvé la solution leur donne une piste. Et ils explorent cette piste et il s'avère que c'est la bonne piste.
Mmh.
Parce qu'en fait, il faut savoir que cette attraction est basée sur une centrifugeuse. Hein. Mais on ne voit pas du tout que c'est une centrifugeuse. Hein. C'est pour ça que vous êtes collé à votre siège. C'est-à-dire que la centrifugeuse, elle tourne assez vite. Hein. Mais vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans une centrifugeuse. Vous avez vraiment l'impression de faire un voyage Terre-Lune. Hein. Et donc la solution est liée effectivement à cette centrifugeuse.
Et le voyage, ils le font vraiment, je veux dire, la famille qui est en question
bien sûr,
a fait son...
Ils font son voyage, oui, puisqu'à la fin...
c'est à la fin qu'ils s'aperçoivent que...
Que le quatrième n'est pas là. Mmh. Que le quatrième passager n'est pas là.
Et alors, donc, elle fait son enquête, et elle essaie de trouver ce qui se passe, et elle tombe sur plusieurs pistes, disons, avant de...
Bien sûr,
on ne
va pas les dire.
Bien sûr, mais elle tombe sur plusieurs pistes, mais on ne sait pas du tout où elle mène ces pistes, finalement.
Oui, alors après, une fois qu'on connaît la solution, il va y avoir une expertise, et puis il va y avoir une visite du sous-sol de la Cité de l'Espace. Et... ils vont découvrir dans le sous-sol de la Cité de l'Espace des choses pas très catholiques.
Mmh.
Et ce qui va donner une autre dimension au polar. Parce que là, on va passer de l'enquête policière à une enquête un petit peu d'espionnage.
Espionnage, oui.
Puisqu'il va y avoir intervention de la DGSE et de la DGSI. Donc la Direction Générale de la Sécurité
Intérieure et Extérieure.
Et intérieure. Il y a un petit jeu d'ailleurs entre les deux directions. Parce que ces deux directions, quelquefois, elles marchent un petit peu sur, sur leur plate-bande. Quoi, hein. Donc il y a une petite rivalité. Et voilà, il y a aussi, derrière mon polar, il y a aussi cet aspect-là, rivalité entre deux services de sécurité de l'État.
Et elle fait son enquête, mais elle fait son enquête aussi sur la personnalité de deux personnes disparues, pour savoir qui étaient ces deux personnes. Qu'est-ce qu'elles faisaient là
Ce sont elles qui ont disparu, voilà. Oui, tout à fait. Surtout qu'au début, personne ne croit à une disparition, hein, mais on s'aperçoit qu'il y a une voiture de sport.
Une Maserati,
voilà. Pour la première, une Porsche pour la deuxième. Qui est resté sur le parking de la cité pendant toute la nuit. Et donc là, les policiers commencent à prendre au sérieux l'affaire. Parce que jusqu'à maintenant, ils prenaient. Jusqu'au fait que quelqu'un remarque que ces deux voitures sont restées sur le parking, les policiers ne prenaient pas l'affaire au sérieux. Mais là, il y a un indice qui montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et d'où le début de l'enquête.
Voilà. Et alors, ils vont faire une enquête à propos de cette fameuse Catherine Gillard. Oui. Ils vont même sur un terrain de golf pour savoir exactement...
Oui, parce qu'elle joue au golf. Oui,
voilà, elle joue au golf, voilà.
Oui, tout à fait. Oui. Hein? Alors, c'est un clin d'œil parce que moi aussi, je joue au golf.
Donc, ils vont essayer de voir s'il y a quelque chose de ce côté-là.
Voilà, tout à fait.
Elle fait son enquête sérieusement, encore, pour savoir exactement si ça ne provient pas d'eux et... S'il y a quelque chose derrière...
Voilà, donc c'est une première piste.
Première piste.
Dans un polar, il faut emmener le lecteur sur plusieurs pistes.
Et oui, voilà, il y a plusieurs pistes.
Il y a plusieurs pistes au fil de la lecture, le lecteur dit « Ah oui, mais c'est ça la solution ». Non, très souvent, ce n'est pas ça la solution.
Et celui d'Ovic...
Daudois,
on est pareil, il essaye de savoir qu'est-ce qu'il faisait là.
Bien sûr.
Parce qu'on le soupçonne lui-même d'avoir...
Oui, d'avoir organisé quelque chose.
De la Maserati, qui est resté là. Ouais. Pourquoi est-il resté là? Pourquoi
il n'est
pas reparti?
D'avoir organisé sa propre disparition, par exemple.
Oui, voilà.
Voilà, donc effectivement.
Donc c'est une enquête policière qui...
C'est une enquête policière qui commence comme une vraie enquête policière et qui se termine par un petit peu d'espionnage.
Oui, oui. Hein,
c'est ça qui est intéressant.
Et la famille là-dedans est interrogée aussi, la famille où elle était à l'écart.
Bien sûr, parce qu'on peut aussi la soupçonner d'avoir fait quelque chose.
Et oui, parce qu'on peut.
Alors très vite, il apparaît qu'ils y sont pour rien. Hein, très vite, oui. Effectivement.
Surtout qu'il n'était pas très très chaud pour le. Enfin, à part la petite qui est intéressée, mais le père et la mère ne sont pas très.
Chaud parce pour. Quand vous dites qu'on va vous soumettre à 2G, vous n'êtes pas très chaud. Mais enfin, tout à fait. Encore une fois, c'est tout à fait intéressant. Ça s'appelle Lune Explorer. Et je conseille vraiment à vos auditeurs d'y aller. C'est tout à fait intéressant. C'est très bien fait.
Oui, parce qu'à travers ce livre, on découvre un peu les coulisses de la cité de l'espace.
Oui, je parle aussi de la cité de l'espace, je parle des autres expériences immersives. Oui. Hein, parce que la cité de l'espace, c'est quelque chose de très bien fait. Hein, qui est à la fois, c'est bien fait parce que moi qui suis du métier, je peux vous dire que c'est professionnel. Hein, mais les enfants, ça intéresse aussi beaucoup les enfants. Parce que c'est très ergonomique, c'est très didactique. Hein. Non, c'est vraiment très très bien fait. Et en plus, ça évolue sans arrêt. Là, récemment, ils ont installé un rover martien. Donc, vous pouvez voir aussi une simulation de Mars, avec du sol de Mars avec le rover. Puis, il y a pas mal de conférences aussi qui sont très bien. Mais, donc, si vous n'êtes pas allé à la Cité de l'Espace, allez-y.
Oui. Très bien. Mais nous allons passer à notre pause musicale. Et vous avez choisi, comme
2001, extrait. Odyssée de l'Espace, pour être dans le sujet.
Mais nous l'écoutons.
Thank you.
Bien, et bien nous revenons au livre de Gérard Müller, Panique à la Cité de l'Espace, qui va nous lire un extrait de ce livre. Nous écoutons.
Ok. Une autre, afin de vérifier le bon harnachement de chacun des passagers, l'hôtesse quitte l'habitacle, dont la porte se ferme aussitôt dans un silence de plomb. Soudain, un bruit sourd est transmis par le plancher qui commence à vibrer. Puis, peu à peu, les quatre occupants sentent que le poids de leur corps augmente, tandis que le compteur d'accélération croît. 1,1G, 1,2G, 1,3G, 1,4G, et qu'à travers le hublot, la surface de la Terre s'arrondit de plus en plus en s'éloignant. Appuyez maintenant sur le bouton poussoir vert, lance une voix métallique dans le haut-parleur. Jade et son voisin s'exécutent avec difficulté, tandis que les deux parents de la jeune femme restent scotchés sur le dossier de leur siège, les traits crispés, le visage blanc et le cœur en vrac. 1,7G, 1,8G, 1,9G, 2G, indique à présent le compteur, sachant que la vitesse du vaisseau atteint les 5000 km par heure et que l'altitude avoisine les 70 km. L'accélération 2G se maintient pendant de longues secondes, au cours desquelles chaque corps pèse deux fois son poids. Impossible de faire le moindre mouvement, sauf en bandant complètement ses muscles. Impossible de toucher le tableau de bord, même au prix d'un effort conséquent. Chacun reste collé à son fauteuil avec la sensation d'y être écrasé par une masse pressant chaque parcelle de sa peau. Puis, lentement, la décélération débute pour redescendre jusqu'à 1G. Accélération de la pesanteur. La simulation du voyage balistique vers la Lune peut alors démarrer, bien que celle-ci soit normalement faite à 0G. Jade, j'ai cru mourir, s'exclame Hélène lorsqu'elle retrouve les conditions terrestres et un peu d'assurance. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé, répond son époux d'une voix chevrotante et qui ajoute la même sensation que dans les montagnes russes, mais qui dure plusieurs minutes. C'était divin, réplique la trentenaire, dont l'avant-bras s'est dangereusement approché de celui de sa voisine, qui en plus bénéficie de son parfum viril et suave. La jeune femme allait réagir lorsque le haut-parleur annonce « Nous allons maintenant procéder à la descente vers la Lune avant de toucher sa surface. Préparez-vous. » Aussitôt, une nouvelle accélération se fait ressentir jusqu'à atteindre rapidement 1,5G. Le hublot montre l'enveloppe de la Lune qui grossit à mesure de la descente. Plusieurs cratères apparaissent à travers la vitre avant que celui du milieu n'occupe tout l'écran de sa couleur gris pâle. 100 mètres, 50 mètres, 30 mètres, 10 mètres, à l'unissage, égrène l'altimètre au moment même où l'accélération redevient normale. Au bout de quelques secondes, le silence réintègre l'habitacle. Jade entreprend ainsi de libérer son harnais quand son regard se dirige vers le siège à sa droite pour constater que celui-ci est vide. Le trentenaire s'est volatilisé avant même que la porte de la capsule ne s'ouvre. Impossible, quelque chose ne colle pas, alors elle s'écrie. Mon voisin a disparu pendant la descente vers la Lune et sa ceinture de sécurité est détachée. Voilà.
Très bien, merci.
Le cœur de l'action.
Voilà, le cœur de l'action. Oui, donc, vous, à travers ce livre, vous nous faites visiter un peu aussi la Cité de l'Espace, comme je disais tout à l'heure.
Oui, je parle aussi des autres attractions et de l'ambiance de la Cité de l'Espace, qui est vraiment, encore une fois, quelque chose de très réussi. Hein. Et en plus, vous apprenez beaucoup de choses, notamment sur l'univers. Vous apprenez qu'on est qu'un petit grain de poussière dans le cosmos.
Poussière d'étoiles.
Oui, une poussière d'étoiles. Nous sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes faits des étoiles qui ont explosé. Hein. Tout à fait.
Oui, alors je voulais vous poser comme question essentielle également, bien sûr. Ce livre, vous savez, vous êtes dans le milieu déjà imprégné de ce milieu, mais en même temps, ce n'est pas une œuvre d'imagination, c'est une œuvre aussi où vous avez besoin de documentation pour le réaliser, pour
le lire. Bien sûr, je suis un peu documenté. Oui. D'abord, j'ai fait l'expérience.
Oui, voilà. Vous avez fait l'expérience.
Oui, j'ai fait mon expérience, oui. J'ai fait deux fois, pour voir. Et puis, c'est quand même mon métier, donc je sais à peu près de quoi je parle. Parce qu'il faut toujours savoir de quoi on parle dans un bouquin. Il faut toujours avoir fait l'expérience soi-même. Hein. Quand on parle, par exemple, d'un pays ou
d'une
quelque chose comme la Cité de l'Espace, il faut y être allé.
Il faut y être allé.
Sinon, on ne va pas en parler correctement. Et il faut essayer de restituer l'ambiance. Mmh. L'ambiance, voilà.
Donc ça vous a permis, à partir de là, de bâtir une intrigue autour de...
Oui, et l'idée de l'intrigue m'est apparue au moment même que de l'expérience.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que lorsque j'étais soumis à 2G,
oui.
Je me suis demandé comment ça marchait. Puis là, j'ai eu l'idée, effectivement, que c'était une centrifugeuse, alors que je n'avais pas vu que c'était une centrifugeuse. Et l'idée m'est venue là, oui, tout à fait. À partir d'une loi physique qu'on appelle l'effet gyroscopique. J'en dirai pas plus.
Alors, au niveau aussi de l'édition, parce que je parle pas de celui-là, puisque vous avez écrit, déjà expliqué tout à l'heure, une trentaine de livres. Hein.
80
livres.
Oui, mais 30 polars.
35 polars. En effet. Ouais. Donc, je ne parlerai pas de celui-là, parce que celui-là, c'était la suite. Mais au départ, quand vous avez commencé à écrire, est-ce que ça vous a été difficile de vous faire éditer ou...
Oui, alors c'est toujours compliqué de se faire éditer.
Voilà, c'est ça.
Et alors, au début, j'ai eu des solutions sur Internet. Hein. Ce n'est pas de l'auto-édition, mais presque. Hein. Et puis, j'ai fait un roman terroir qui se passe dans le Cap-Cyr, justement, hein, qui se passe dans les Pyrénées-Orientales. Ce roman terroir à la mode de Michelet ou de Christian Signol. Hein.
Signol, oui.
Voilà, c'est l'histoire d'un village qui était complètement abandonné et qui a été ressuscité par quelqu'un. Hein. Et qui est un village qui existe, hein. Il s'appelle Jujol, mon bouquin s'appelle Les Lauses de Jujol, et le village maintenant est complètement habité, alors qu'il était complètement abandonné, plein de ronces, etc. Et donc c'est l'histoire de cette résurrection que j'ai fait, et j'ai envoyé un éditeur à Perpignan, et il l'a trouvé bien, donc il l'a édité. C'est comme ça que
ça,
c'est venu.
Et
puis une fois qu'on a trouvé un éditeur, ben... Si ça se passe bien avec lui, ben on continue avec lui. Hein.
Voilà.
Après, il m'a dit, tiens, mais pourquoi vous ne faites pas un polar ? Tiens, vous ne faites pas un polar sur Toulouse ? Alors, j'ai fait un polar sur Toulouse qui s'appelle « Même les mémés, même la castagne ».
Oui, c'est de Nougaro.
Qui est basé, effectivement, dont l'intrigue est basée sur la chanson de Nougaro.
La chanson de Nougaro.
Et d'ailleurs, pour ceux, alors je vous fais une petite confidence, pour ceux qui ont vu le téléfilm... Meurtre à Toulouse, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ah oui, je l'ai vu.
Téléfilms. Meurtre à Toulouse,
oui.
ils se sont inspirés de mon scénario.
Ah bon ?
Et j'ai essayé de les attaquer, mais ils étaient trop gros pour moi.
Hein.
Voilà, donc si vous voyez Meurtre à Toulouse, c'est tiré de mon scénario.
Je l'ai vu.
Même les castagnes. Hein. Et le scénario, l'intrigue est basée effectivement sur la chanson de Nougaro. Puisqu'on va trouver des cadavres dans les quatre endroits de Toulouse cités dans la
chanson.
Dans la chanson, qui sont les Minimes, Blagnac, le Capitole et bien sûr Saint-Cernin. Voilà, et donc ils ont pompé mon idée, Meurtre à Toulouse, ils ont copié mon idée de trouver des cadavres dans les coins cités par Nougaro. Voilà.
Et le titre, Panique à la Cité de l'Espace, vous l'avez trouvé tout de suite
au
cours du...
Oui. Non, alors les titres, ça ne vient pas au début. Hein.
Non.
Généralement, ça vient que lorsqu'on a fait on a écrit le bouquin. Hein. Puis j'essaie toujours de faire un petit clin d'œil sur les titres. Hein. Même la castagne, par exemple, j'ai fait Pas d'alibi pour Albi, Cap sur le Cap-Cyr, voilà. Hein. Gros pataquès à Argelès, voilà. Je trouve toujours un titre assez amusant. Enfin, j'essaye. Hein.
C'est vous qui le trouvez tout de suite ou c'est l'éditeur qui éventuellement...
Non, c'est moi qui le trouve. Mais alors, pas tout de suite. Hein. Des fois, il faut plusieurs itérations. Je commence à trouver un premier titre, puis il ne me plaît pas trop, etc. Et à la fin, il y a une illumination qui vient et le titre arrive. Voilà. C'est comme ça que ça se passe.
Et je voulais également vous demander, est-ce que vous avez vous écrivez bien sûr, mais est-ce que vous avez également des influences littéraires ou policières, des influences d'auteurs de romans policiers qui inconsciemment peut-être vous ont influencé.
Pour ne rien vous cacher, je lis pas beaucoup de romans policiers.
Ouais,
je lis beaucoup de vrais romans.
Hein. Oui.
Mais sinon, j'aime bien Fred Vargas par exemple.
Ouais.
Hein.
Ouais.
J'aime bien Camille Lacbert, Millennium aussi, j'ai adoré Millennium. Mais je lis plutôt ce que j'appelle de la littérature blanche.
Ouais.
Vous savez qu'on appelle les policiers, c'est la littérature noire, ou le thriller, c'est noir. Moi, je lis plutôt de la littérature blanche et j'aime bien quand c'est très bien écrit. Hein. Par exemple, j'adore J'adore Houellebecq. Le dernier concours est très bien aussi. J'adore.
Celui de Montvignier.
Oui, j'adore notre concours toulousain,
oui.
Qui est Jean-Paul Dubois.
Dubois.
Est vraiment, moi je trouve que c'est remarquable au niveau du style, au niveau de la construction du roman, c'est extraordinaire. Hein. Voilà, et puis j'aime bien aussi Jean-Christophe Ruffin. Je ne sais pas si Jean-Christophe Ruffin qui a fait une série sur le consul AOL, vous connaissez
Oui.
Il vient de sortir un bouquin d'ailleurs qui se passe à Sainte-Hélène.
Voilà. Ça.
C'est d'actualité parce que le bateau.
Les gens
qui ont chopé le fameux virus, ils ont atterri à Sainte-Hélène. Oui. Je vous le recommande, je m'en plus du titre. Hein. Et lui, c'est un anti-héros, c'est un consul qui préfère. Qui veulent rien foutre et qui est très mal noté par ses supérieurs, qui ne faut rien, mais qui, de temps en temps, arrive à résoudre une énigme. Hein. D'ailleurs, je me suis inspiré de cette série pour faire une série moi-même. Mais moi, ce n'est pas un consul, c'est un policier, un gendarme, qui préfère aller au restaurant plutôt que faire des planques. Mmh. Et comme il joue au poker et qu'il gagne, parce que tout le monde le prend pour un imbécile, et donc il gagne, il s'est bluffé au poker... Il arrive à s'infiltrer dans les milieux un peu louches pour résoudre des énigmes. Sachant que l'énigme a toujours un côté un petit peu gastronomique. Non, puisqu'il préfère... C'est un fin gastronome, voilà.
Et vous l'avez terminé, le livre, ou vous êtes en train
de l'écrire ? Ah non, c'est une série. J'en ai fait 7.
Ça y est.
Ouais, j'ai fait 7. Oui, c'est une
série. Et en ce moment, vous écrivez un livre ?
Non. Alors en ce moment, je viens de finir un polar qui se passe à Toulouse, d'ailleurs. Au quai de l'embouchure, mais là, c'est un polar un petit peu dystopique. C'est-à-dire que j'imagine qu'un robot humanoïde devient flic, mais que les flics ne s'en aperçoivent pas. Mais c'est quelque chose qui peut arriver dans quelques années.
Oui, malheureusement, oui, c'est vrai.
C'est tellement bien fait maintenant. Oui. Voilà. Non, ma série, c'est... le dernier de ma série se passe dans un camp de nudistes au Cap d'Agde. Qui s'appelle Deux gendarmes en mission chez les nudistes, hein, où mon fameux héros gendarme va en mission avec sa compagne, d'ailleurs qui est gendarmette, hein, au Cap d'Agde pour enquêter. Mais comme il est pudique, ça lui pose des tas de problèmes de se mettre tout nu dans ce camp de nudistes. Voilà.
Et pour ce livre en particulier, vous faites une promotion, vous faites des salons de livres, vous faites des dédicaces.
Alors je fais pas mal de salons de livres, oui. Et je fais des dédicaces. Je fais un Blégnac. Il m'arrive de faire une dédicace, par exemple, à Cultura, chez Cultura. Mm-hmm. Tous les ans, je fais une dédicace chez Cultura Blégnac. Hein. Et je fais pas mal de salons. Bon, c'est assez intéressant. Maintenant, il y a beaucoup de salons. Il y en a
beaucoup
de salons. J'ai même fait des salons où il y avait plus d'auteurs que de visiteurs. Mais il y a des salons qui sont très bien. Puis c'est l'occasion de rencontrer des collègues.
Bien sûr.
Parce que lorsqu'on écrit, on est un peu seul, hein.
Bien sûr.
Et le salon, c'est vraiment l'occasion
de rencontre avec d'autres
des éditeurs d'autres... ou des autres auteurs, de se passer des tuyaux, voilà.
Et est-ce que vous avez des rituels d'écriture, c'est-à-dire vous travaillez tous les jours
ou... Alors contrairement à pas mal d'écrivains qui ont vraiment besoin d'un rituel, non. Non, moi je peux écrire n'importe quand, n'importe où, non, et n'importe quand.
Combien de temps vous mettez pour écrire un livre en général ?
Ça dépend. Alors un polar comme ça, comme celui-là, qui est un petit polar, hein, qui fait même pas 200 pages, ça me prend un mois et demi. Hein. Mais des romans de fiction qui sont plus conséquents, ça peut prendre 6 mois, 1 an. Et puis souvent, je reviens dessus. C'est-à-dire que j'écris pendant quelques mois, après je l'abandonne pour le retrouver 3 mois après. Ça peut prendre 1 an, 2 ans comme ça. Hein. Mais les polars, c'est vite fait. Hein.
Très bien. Eh bien. Je crois que nous arrivons malheureusement au terme de notre émission, puisqu'il est 17h30. Écoutez, je vous remercie encore une fois d'avoir
merci beaucoup, Jean-Pierre,
à notre invitation. Je rappelle bien sûr le titre du livre, « Panique à la Cité de l'Espace » de Gérard Müller, aux éditions Les Presses Littéraires. Donc je vous souhaite beaucoup de succès pour les prochains, pour celui-là et pour les prochains livres. Et j'espère que nous nous reverrons à l'occasion de vos prochains livres.
Et encore merci. Hein,
avec plaisir.
Radio Altitude, au contraire. Et à vous-même, Jean-Pierre.
Merci. Je dis à nos auditeurs, donc au mois de juillet maintenant. Merci. À très bientôt. Au revoir.